Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. À partir de 12h55, avec le romancier et professeur en littérature à l'Université de Nantes, Philippe Forest, et la chercheuse Olivia Chambard, nous parlerons de l'université. L'université en question, l'université en route pour devenir une entreprise des savoirs, ce sera le sujet de la grande table des idées. Mais d'abord, 10 ans après notre terreur, sur les derniers mois, jours, heures de Robespierre, il met en scène aujourd'hui le grand inquisiteur au théâtre de L'Odéon à Paris. C'est un poème, un récit extrait des Frères Karamazov de Fyodor Dostoïevski, qu'il adapte donc en cette rentrée. Une mise en scène échevelée à l'image de son créateur, Sylvain Creusevaux, est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Lorsque l'obéissance est achetée au prix du pain, tu as répondu que l'homme ne vit pas que de pain. Sais-tu bien que c'est au nom de ce même pain terrestre que l'esprit de la terre et de la nécessité se lèvera contre toi et ira te combattre et te vaincra et que tous le suivront en s'exclamant: qui peut se comparer à cette bête? Elle nous donnera la foudre, le feu des cieux. Sais-tu que les siècles passeront et que l'humanité proclama par la voix de sa sagesse et de sa science que le crime n'existe pas et que le péché n'existe pas non plus, qu'il n'existe que les affamés?
Extrait des répétitions du grand inquisiteur au théâtre de l'Odéon. À cet instant, c'est lui qui s'emballe et livre un réquisitoire sans appel contre Jésus dans une tempête de son. Bonjour Sylvain Creusevaux.
Bonjour Olivia.
Merci à vous d'être avec nous pour cette rentrée du spectacle vivant, pour cette rentrée du théâtre aussi. Et vous serez à Paris, dans ce théâtre de l'Odéon qui a longtemps dû fermer ses portes, comme beaucoup, à cause de l'épidémie, à cause des consignes de confinement. Déconfinez donc avec cette pièce ce grand inquisiteur de Dostoïevski que vous adaptez, que vous recréez. Vous commencez la pièce par un collage de slogans. Quel serait pour vous celui qui résumerait en gros ce texte? Les quelques mots qui nous permettraient de tout de suite entrer dans le vif de ce grand inquisiteur.
Accusé, levez-vous. Ce serait une parole de l'inquisiteur qu'il adresserait au Christ. Parce que le grand inquisiteur, c'est un réquisitoire. C'est un vieil homme, c'est un vieillard. Et il a fait partie des personnes dans sa jeunesse qui ont sans doute adhéré à l'armée de Jésus, à l'armée du salut. Et qui, au fur et à mesure de sa vie, a, selon lui, découvert le mensonge du Christ ou l'intenabilité, en fait, de la position éthique du Christ, de la position de l'amour et de ce que ça exige de liberté. Et il se retourne et rejoint le camp du pouvoir. C'est une charge quand même, c'est une charge. Et c'est une charge qui vient de l'esprit d'un personnage dans un roman. Donc c'est une mise en abîme. Ivan Karamazov, un des frères, un des enfants Karamazov, est en lutte. Il y a une lutte en lui entre la question de l'existence de Dieu et ou l'acceptation de l'idée de Dieu, de son existence, et puis le refus absolu du monde de Dieu. Évidemment, on entre là dans la question du bien et du mal, ou comment il peut exister un Dieu d'un côté et le mal de l'autre. Alors ça lui fait... si vous voulez, rentrer en lutte en lui, dans une espèce de des moments de contradiction absolue. Et Ivan ne croit pas qu'on puisse aimer son prochain. Et donc, évidemment, dans cette droite ligne, cette pente, il en vient à la figure suprême du Christ, qui est la figure suprême de l'amour, et qui est aussi la figure qui représente le fait que il n'y a pas d'amour sans foi. Et l'amour en même temps dans un mouvement parallèle est un chemin vers la foi. Et donc il veut nier ce Christ.
C'est pour ça qu'il dérange en fait ce Christ, c'est parce qu'il l'aime, parce qu'il croit dans ce texte, dans ce récit. Hein, Jésus est effectivement de retour sur terre, il veut comprendre l'inquisition espagnole, mais sa simple présence dérange, perturbe ce grand cardinal, inquisiteur, qui projette du coup de l'arrêter. Cette fable, vous le disiez, hein, c'est Ivan qui en fait le récit à son frère Alexei. Il dérange donc pour ça, pour cet amour qu'il incarne, pour cette capacité à croire en quelque chose aussi.
Bien sûr, mais c'est aussi, il est un ennemi de l'État. Puisque les personnes qui sont au contact du Christ ressentent, ou plutôt le Christ allume en eux cet élan messianique, cet élan vers la liberté, et que cette liberté, elle est une pierre d'édifice du désordre. Il y en a plein. Après, si on quitte le royaume céleste, ou si on quitte le royaume du texte et qu'on fait descendre la figure du Christ dans des figures historiques ou dans des cas historiques, eh bien, ça prend beaucoup de formes très diverses, mais toujours, en tout cas, des formes qui sont inquiétées par les pouvoirs publics ou par le pouvoir d'État. Et donc, il est mis en prison et il est évidemment promis à une mort certaine, quoi.
Il y a une mise en tension, vous le disiez, du bien et du mal, une mise en tension aussi de la liberté face à la sécurité, de cette inquiétude qui est manifestée. Ce grand inquisiteur, il ne croit en rien et il n'aime pas surtout qu'on le contredise. Il va revenir avec vous dans votre mise en scène, Sylvain Creusevaux, sous les traits d'un Trump, comme avant d'une Margaret Thatcher, comme avant d'un Joseph Staline. Ça, ce sont des figures, pour vous, de la, du grand inquisiteur, dans le sens de la non-contradiction.
Alors c'est plus, je veux dire, ce qui m'amuse moi d'en faire descendre un peu, comment dire, les personnages et les figures du royaume céleste sur terre, dans le monde historique et dans la conflictualité historique, donc en fait dans les luttes ou dans les, comment dire, l'incarnation dans des chefs d'État et dans des chefs d'État d'obédience et d'histoire de théories et de pratiques politiques très diverses, c'est que d'un côté, effectivement, ce sont des inquisiteurs bouffons, c'est-à-dire ridicules d'un point de vue risible, enfin joueurs. Et la forme de théâtre qu'on essaye, dans lequel on est en travail pour les représenter, est une forme bouffonne. C'est-à-dire que d'un côté, l'inquisiteur qui au fond, on se sait, parce qu'il y a parfois j'ai toujours l'impression qu'il... Quand il parle au Christ, quand il s'adresse au Christ, j'ai toujours l'impression que c'est comme s'il s'adressait à quelque chose d'un souvenir de lui qu'il a perdu et qu'il le regarde, et ce souvenir le regarde avec compassion, évidemment, comme avec amour. Et donc ça l'énerve, parce que ça lui fait quand même jaillir une culpabilité, ça lui fait jaillir des passions tristes à cet inquisiteur qui est vieux. Et quand je les mets dans des personnages politiques, j'essaie d'utiliser une forme de théâtre. On est en travail, on n'est pas encore tout à fait bien satisfait de tout ça, mais on est en travail. Et la forme bouffon, c'est une forme de jeu. Donc je contredit en fait la forme de jeu, la forme de comment ça va être représenté. Elle doit être étincelante, elle doit être joyeuse, légère, blagueuse et pas sérieuse du tout. Et en même temps, elle représente des personnages qui ne m'ont pas toujours fait rire, quoi.
C'est le genre de la farce que vous adoptez, d'une
sorte de farce,
oui, ouais,
de
bouffons.
Les bouffons,
ouais.
Les bouffons dans le théâtre, dans l'histoire du théâtre, ce sont des personnages qui viennent sur scène. Alors c'est pas du tout des trucs fins et tout. Ça crache sur le ciel, ça pisse sur la terre. C'est les bouffons sont là pour des, ce sont des espèces de formes qui sont des formes hypertrophiées et bêtes, très bêtes. Alors ils entrent dans tous les bouffons par la bêtise, ils entrent dans tout par... Donc si on était en train de construire une belle finesse de mise en scène, ils arrivent, bing, ils cassent le moment. Il y a toute une tradition du bouffon aussi où on va, qui vont s'amuser à casser le rythme du spectacle, à faire que tout est mauvais. Vous voyez, les bouffons sont des êtres joyeux, quoi.
Enfin, oui, en même temps, les bouffons, faut quand même les prendre au sérieux. Ils ont une vraie capacité à vous le dites, briser le rythme et le cours des choses,
oui.
à imposer aussi leur vue et leur discours.
Oui, je vais essayer de faire confiance à la perception, au regard des spectateurs, quoi. J'assume.
Accusé, levez-vous. Vous nous disiez que c'était peut-être le slogan que vous retiendriez pour cette pièce aujourd'hui. Est-ce que ce accusé, levez-vous, n'est pas aussi un slogan de l'époque pour vous, Sylvain Creusevaux?
On peut se poser la question du fait de la séquence historique que nous traversons, cette pandémie, que ce genre d'événement peut rallumer ou allumer chez les êtres une perception chrétienne du monde. Mais pas que d'ailleurs chez les chrétiens, parce que chez les écolos aussi, il y a une autre traduction dans le langage. Mais C'est-à-dire comme si cet événement semblait être un déluge ou semblait être des signes d'un jugement dernier. Et alors tout le monde s'engouffre dans ce genre de texte, enfin de signes. Et les discours s'emballent, vous voyez. Et évidemment, dès que les discours s'emballent, dès que les rapports sociaux se contractent, on cherche très vite une petite table, une petite chaise pour recommencer le procès. Soit le procès des gens, soit le procès de l'histoire, de mettre en accusation. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le spectacle un entretien d'Heiner Müller, qui pour moi met en perspective, en écho, le texte du Grand Inquisiteur. C'est-à-dire que parfois, dans ces moments où... où des signes sont vraiment très, très forts, c'est comme si le juge, c'est comme si c'était on aime la grandiloquence, on jouit le pire. C'est-à-dire qu'on aime commencer à des grands mots, comme le jugement dernier. Dans le jugement dernier, il y aura à la fin un tribunal, et à la fin il y aura ceux qui ont droit d'entrer et puis ceux qui n'ont pas le droit. Et oui, on est dans un moment où effectivement les rapports se judiciarisent, pas forcément dans formellement par rapport au tribunal, mais même dans les rapports personnels, même il y a quelque chose où on se défend, on attaque, c'est les mots du droit, n'oubliez pas. Et puis en France, c'est une catastrophe, parce que si vous voulez le français révolutionnaire, enfin le français bourgeois de la fin du 18e, tout ça ce sont des gens, ce sont des avocats, ce sont des gens du droit qui ont fait le langage de la modernité politique de ce pays. Vous voyez, donc je disais, vous parliez de Robespierre, mais c'était la même chose avec Danton, enfin, c'est-à-dire tout ça, et même plus récemment encore, c'était des gens qui viennent à la politique par le droit. Et voilà, ça, donc oui, c'est
une époque.
Je sais pas, des relations, ouais. Que ça m'intéresse tellement, vous voyez.
Non, mais c'est symptomatique peut-être d'une époque, comme vous le dites, où on attaque, on accuse et on ne dialogue plus, on ne discute plus, on ne met plus les gens autour d'une table pour qu'un échange se fasse, ce qui est quand même aussi un des motifs de votre mise en scène récurrent, cette idée de l'échange à rétablir. Il vient de signer une nouvelle traduction du Maître et Marguerite de Bulgakov. C'est à partir de sa traduction des Frères Karamazov que vous avez travaillé, Sylvain Creusevaux. André Markowitz, à propos du poème Le Grand Inquisiteur, écoutez.
Le plus insupportable de ce poème, comme l'appelle son créateur, c'est-à-dire Ivan Karamazov, c'est ce que fait Jésus. Jésus ne dit rien. Et écoute, et il y a un léger sourire, qui n'est pas un sourire au Grand Inquisiteur, qui est le sourire d'un tableau de Raphaël. Jésus ne peut pas parler, puisqu'il a déjà parlé. Personne ne peut ajouter une parole à Jésus. Et donc, Jésus ne peut que se taire. Et ce qui est monstrueux dans ce poème d'Ivan Karamazov, c'est le silence. Parce que le grand inquisiteur, qui est un vieux, et qui comprend qu'il va tuer celui que soi-disant il sert, ne fait que parler, et ne peut que parler. Et ajouter des choses, c'est des abîmes de pensée et de réflexion. Un des sommets de la pensée humaine, je pense, le poème du grand inquisiteur. Et ces abîmes de réflexion et de pensée se cognent, s'engloutissent dans le silence de Dieu. Dieu ne peut exister que apophatique, que par son silence.
Voilà le silence de Dieu, celui de Jésus, sommet de la pensée humaine, ce poème.
Freud disait un peu ça aussi. Je pense que André le reprend à Freud. Pas du tout. Pas du tout pour moi. Mais vous savez, c'est compliqué de vous répondre parce que, effectivement, quand on est seul lecteur, enfin, pas forcément seul, mais même dans une pratique collective de la lecture, mais quand on est face au texte de Dostoïevski, face au poème de Ivan, le rapport qu'on entretient, le rapport qu'on construit avec une œuvre qu'on lit, on pose le livre, on le reprend, on construit aussi l'approfondissement, on construit la profondeur du contenu. Elle n'est pas simplement inscrite noir sur blanc, la profondeur. On la construit dans la relation qu'on a à la lecture. Quand on incarne au théâtre, par contre, un texte, là, on est face à des acteurs, des corps. On est dans l'avant-goût de la pourriture, vous voyez. Déjà, on est beaucoup moins édifiant. Il y a parfois un petit côté agaçant chez Dostoïevski, contrairement à des petits moments d'édification où il peut pas s'en empêcher. Et donc, eh bien, je trouve une grande différence entre lire le poème d'Ivan, le grand inquisiteur, et l'essayer de le représenter, de l'incarner sur le plateau. Il y a quelque chose qui s'épuise par les corps, et évidemment, c'est cette odeur de pourri qui, moi, c'est ce goût. C'est le goût de la viande.
Qui s'épuise d'autant plus que ses corps voulaient vider de leur boyau, en tout cas celui de Jésus. Sylvain Creusevaux m'en dira pas plus, mais vous avez quand même isolé, juste pour en revenir à la forme, ce long poème réquisitoire du corps des frères Karamazov, pour le coup. L'intégrale sera montée, elle sera montrée plus tard, en novembre, si tout va bien. Ça, c'était la belle idée de Stefan Braunschweig, le patron de l'Odéon, qui vous a associé comme artiste à son théâtre. Présenter une forme courte, plus légère, comme une mise en bouche. Vous y voyez, vous aussi, une forme de préliminaire.
Il y a plein de facteurs qui se sont comme alignés, comme un peu des planètes, et qui ont permis qu'on mette le projet en place. Au printemps, j'étais défait par ce que j'entendais, par la fausse solidarité, la mal placée dans le milieu du théâtre, ce que j'entendais sur l'urgence des récits. Ça me gonflait un peu parce que je sentais que tout d'un coup la culture avec un grand C était en train de construire sa toile, c'est-à-dire une espèce de on commençait à dire que ça allait être difficile pour tout le monde, et il fallait penser à des formes qui le permettent, des petites formes, des formes, et puis il y avait une espèce de goût de circonstance, comme si tout d'un coup les pièces, le travail allait être de circonstance. Évidemment, on est dans des conditions particulières de fabrique des spectacles, comme tout le reste de la société dans le milieu du travail. Mais ça m'énervait cette fausse assemblée humaine qui allait revenir ou espérer de revenir et voir les choses. Et je voulais essayer de construire quelque chose et avec un texte qui soit un texte pas de la grande chaîne humaine de l'amitié, mais de la conflictualité du rapport scénique, et que les spectateurs puissent venir au théâtre sans que ce soit le bain du coronavirus qui soit encore présent. Et ça me semblait être un texte. Donc j'ai dit à Stéphane, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'en faire une forme en écho avec d'autres textes, de le représenter. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. En même temps, ça me permettait aussi de gagner un peu de temps sur la grande adaptation des frères Karamazov, parce que le truc est énorme. Et donc, comme en ce moment, je vois mal en novembre demander aux spectateurs de venir 8h au théâtre, mais on va le faire. On va faire et on va dire à tout le monde, venez masquer, venez dans une espèce d'abnégation, tous ensemble, faire du théâtre. Parce que les Karamazov, c'est un peu long, quoi. Donc, si le spectacle fait 3h, 3h30, avec un entracte, est-ce que les gens vont venir, pas venir et tout ça. En tout cas, ça me permettait de travailler d'abord sur un truc. Je dis n'importe quoi. De venir d'abord sur une première formule, ça me permettait aussi de dire, je vais l'expurger de la deuxième partie, gagner du temps, en même temps la mettre en écho, faire que les gens puissent voir pendant l'automne un moment avec Dostoïevski, première pièce, deuxième pièce, vous voyez, c'était quelque chose qui était intéressant.
6h, 8h, c'est long. Troisième adaptation pour vous, Sylvain Creusevaux, l'écrivain russe Dostoïevski, après Les démons et l'adolescent, les frères Karamazov. J'essaye de suivre votre débit, d'accélérer un peu, mais je sens bien que je marche au ralenti avec vous. Dostoïevski versus Don DeLillo, comment adapter des textes monstres, comment transposer des grands textes au théâtre. Certains sont jugés d'ailleurs assez impossibles. Vous allez nous dire comment vous faites, mais juste après, les mots de l'un de vos confrères, le metteur en scène Julien Gosselin.
Il y a eu des grands moments de difficulté, mais c'était une des adaptations les plus évidentes, ne serait-ce que parce que les trois quarts des romans sont dialogués. En fait, il y a très peu d'auteurs qui font ça. Et d'ailleurs, généralement, les auteurs qui font ça sont adaptés au théâtre. Il se trouve que Dostoïevski, par exemple, si on lit, on se rend compte qu'en fait, la moitié des romans, même peut-être plus parfois, sont du dialogue. Donc du coup, l'adaptation au théâtre se fait de manière évidente. Et il se trouve que Don DeLillo, une des grandes difficultés de traduction, pour le coup, mais aussi de compréhension des livres, c'est son aspect, on va dire, qu'on a appelé postmoderne, mais que c'est pas très juste de le nommer comme ça. C'est l'idée que il fait des dialogues, mais parfois, on apprend 4 pages après qui parlait dans le dialogue. Nous, au théâtre, évidemment, cette chose-là est brisée, parce que quand un acteur parle, on sait qui parle. Mais, disons, la transposition au théâtre a été une des choses assez simples, parce que l'incarnation, en fait, se fait immédiatement. Il se trouve aussi que c'est un écrivain américain, et que même si je suis pas sûr qu'on puisse à chaque fois, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, parler de grandes traditions littéraires, mais enfin, toujours est-il qu'il y a une tradition américaine qui est celle des personnages.
Oui, à adapter, comment c'était ?
Olivia, je voudrais d'abord dire que Julien Gosselin a vraiment une belle voix, quoi. C'est-à-dire, j'écoutais pas ce qu'il disait, mais j'écoutais sa voix que je trouve très belle. C'est un ami, je le salue. Adapter, c'est difficile parce que comment vous dire, quand je lis Dostoïevski, quand je passe du temps avec lui, j'ai pris quand même 5 ans là, j'ai une sensation de lire des personnages au-delà de la question de l'action, de lire des personnages qui sont illisibles. Leur âme apparaît. Quand on travaille au théâtre sur un plateau et qu'on met ces âmes lisibles dans des corps, ce qui réapparaît, c'est une sorte de confusion énorme. Et, enfin, pas énorme, mais enfin, un chaos. Et donc, c'est comme si, comme un peu un négatif, un positif en photographie ou en structure. Il y a quelque chose qui fait que le passage au théâtre, c'est pas simplement une suite de scènes coupées, adaptées. C'est quelque chose qui va dans un premier temps s'obscurcir. La lumière qui jaillit de la lecture de Dostoïevski s'obscurcit au théâtre. En fait, la volonté de fidélité dans l'adaptation se tord et se retourne en infidélité radicale. Et j'ai souvent l'impression que ce que j'essaye de dire dans le petit papier qu'on va donner au spectateur, c'est que la sensation, c'est que adapter Dostoïevski, c'est trouver une dostoïstifier le théâtre. Ça veut dire, je sais pas comment dire, ça veut dire il faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut retrouver son esprit, le réagencer, le construire. Et pour l'agencer, enfin moi je cherche l'esprit de Dostoïevski, je cherche pas sa lettre quoi. Je cherche l'esprit qui vivifie, qui joue, qui danse, qui doute et qui croit, et pas simplement la lettre qui parfois l'être figé, coagulé, qui a moins de mouvement.
La première, ce sera vendredi.
Absolument.
Si tout va bien.
Oui,
tout ira bien.
Oui.
Oui.
Je pense, j'espère. Oui, oui. Alors, on doit évidemment les spectateurs, le théâtre qui prépare comment disposer les personnes dans la salle, enfin comme dans tous les lieux qui ouvrent.
Ce sera au théâtre de l'Odéon à Paris et ce sera avec le Festival d'automne.
Dans la salle du 6e.
Mm-hmm.
Oui. Avec le Festival d'automne, bien sûr, oui. Big voilà. Up à Marie Collin.
Et ce ne sera pas encore 6-8 heures, ce sera donc un peu moins de 2 heures pour ce grand inquisiteur de Dostoïevski, extrait des Frères Karamazov, mis en scène par vous, Sylvain Creusevaux. Pendant le confinement, et on va s'arrêter, on va terminer là-dessus, il y a eu un rendez-vous hebdomadaire que vous avez fixé avec ceux qui souhaitaient vous y retrouver autour du Décameron, de Boccace, de la peste au coronavirus. Mmh. En un mot, et après j'aimerais qu'on en écoute un extrait avant de se quitter, pourquoi ce choix de nouvelles? Comment vous avez choisi de les faire lire à des comédiens?
Bah alors là vraiment c'était extraordinaire parce que il y a eu une espèce d'élan quoi, tout simplement. C'est des choses. Et on s'est pas encore retrouvé.
Vous êtes troublé parce que j'ai dit en un mot en fait et vous vous dites comment je vais pouvoir dire ça en un mot?
Oui,
bah, faire une phrase en un mot, ça ne marche pas en fait.
Ah oui, mais votre proposition est étonnante parce que là,
c'est vrai.
Alors, mais attendez, non mais les gens par capillarité, les gens entendaient, hop, on faisait un mail, un petit, moi aussi je voudrais bien participer. Je pense qu'il y a 200 personnes qui ont participé et tous gracieusement évidemment avec comment les gens étaient confinés dans des conditions différentes et on a pu essayer de faire quelque chose, oui, comme un petit rendez-vous avec avec le site internet lundi matin, et ce qui a permis d'avoir voilà, de se retrouver un peu chaque matin et écouter à 8h une nouvelle de Boccace. Et c'est venu évidemment aussi connement qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire par trafic associatif littéraire, si je puis dire.
Par capillarité, on y revient. Et Jean-Luc Godard a dit oui.
Halte là, Grosin ! Sors pas du train !
Alors, c'est donc le Décameron de Boccace. La 9e journée, c'est la nouvelle 8. Et on est le 26 mars déjà. Ouais. 16h17. Bon. Ouais. Oui, bah, j'ai pas trop envie comme ça, moi, de dire mon nom, hein, décliner son identité. C'est comme si on est déjà pas assez avancé sur la pente du déclin. Non, voilà. Alors. Et puis en anglais, j'ai jamais trop su, moi, parler anglais. Hein. Alors voilà. Si, où je pourrais dire, ben, je sais pas, je pourrais imaginer comme ça. Jean-Paul, Angoulême. Voilà.
Voilà, Jean-Luc Godard, t'entends de se présenter. Ça donne un Jean-Paul Angoulême, peut-être aussi. Hein. Jean-Luc Godard, votre Godard à vous, c'est celui de la chinoise, du film Socialisme, voire d'Adieu au langage. Ou sous-té, c'est tous les Godards réunis.
Pardon ?
C'est tous les Godards réunis ou c'est
particulièrement... Je connais mal. Je connais pas très bien. Mais ça m'a l'air d'être un cinéaste intéressant.
Ouais. Merci beaucoup à vous, Sylvain Creusot.
Merci à vous, Olivier.
Le Grand Inquisiteur au Théâtre de l'Odéon à Paris à partir du 25 septembre. Ce sera jusqu'au 18 octobre. Et puis on verra bien si suite il y a ici ou ailleurs. Merci.